Vous écoutez RTL.
C'est une accusation très grave. Deux agents français accusés de trahison car travaillant pour le compte de la Chine. C'est ce qu'on appelle des agents doubles. Et bien ce matin, essayons de comprendre ce qu'est précisément le contre-espionnage.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Alain Boer, bonjour. Vous êtes professeur de criminologie. Vous venez de publier Les guetteurs, les patrons du renseignement français répondent aux éditions Odile Jacob. Alors d'abord, cette question toute simple. Des agents retournés, c'est-à-dire des agents doubles, est-ce que ça arrive souvent?
C'est un des jeux préférés du monde de l'espionnage, c'est évidemment de retourner un espion. Les Russes ont fait ce travail pendant très longtemps en France, du temps du général de Gaulle. L'affaire Topaz, entre guillemets, reste un souvenir historique. Nous le faisons, tout le monde essaye de retourner l'agent des autres. C'est une sorte de cerise sur le gâteau dans le monde de l'espionnage.
C'est une cerise sur le gâteau et si je comprends bien, c'est une activité permanente, un objectif et une inquiétude des services dans le même temps.
Absolument. Les services de renseignement font deux choses très bien. L'espionnage, où tout est bon à prendre, et le contre-espionnage, où ils ont développé des activités et des compétences très fortes. Et puis l'antiterrorisme qui est arrivé le petit dernier, oui, et qui a mis le plus de temps à s'imposer dans une culture assez différente. Dans les métiers de l'espionnage, le contre-espionnage, c'est un élément fondateur. Et d'ailleurs, en général, c'est fait soit par un service interne, lui-même isolé des autres, soit par un autre service qui enquête sur les services. Donc chacun se surveille. Il y a une sorte de paranoïa naturelle dans le métier. Tout le monde a toujours peur de l'espion qui viendrait vous espionner, y compris quand c'est un des vôtres.
Ah ben dit comme ça, en effet, ça a l'air très très simple. Alors reprenons le fil de ces informations pour qu'on comprenne bien. Quel est le rôle des agents de la DGSE, notamment quand ils sont en poste à l'étranger, Alain Boer?
Alors d'abord, c'est un rôle de coopération. Beaucoup d'entre eux sont très visibles. Ce sont des résidents. Ils sont connus des services étrangers. Et ils font de la coopération, de l'échange même avec des gens qui ne sont pas naturellement nos alliés. D'abord parce que la lutte contre le terrorisme a beaucoup changé le rythme des alliances. Et qu'à l'inverse, l'espionnage économique fait que nos amis, ils sont souvent nos amis pour beaucoup de choses, mais pas toujours quand il s'agit de des avions ou des technologies, voire des armes. Donc le rôle est à la fois diplomatico, commercialo, renseignement. Et puis ils glanent des renseignements et parfois ils voient passer des correspondants qui viennent leur offrir des options pour obtenir des informations, sachant que dans ces options, l'enfumage ou le double pavillon existe aussi, c'est-à-dire que ce sont des vraies fausses informations ou que ce sont des petites entourloupes. Donc il y a un rôle très psychologique, une sorte de profiling de l'espionnage pour savoir si le correspondant est un vrai correspondant et l'information est une vraie information. Et puis ensuite, ils transmettent à Paris où des analystes font le métier. Et puis parfois aussi, ils récupèrent des défecteurs qui eux-mêmes viennent avec une petite liste d'agents qu'ils ont eux-mêmes retournés. C'est toute l'histoire du monde du renseignement.
Mais leur identité est tenue secrète? Être un agent de la DGSE?
Non, non. Beaucoup d'entre eux sont connus comme résidents et un certain nombre d'entre eux sont plutôt conseillers aux machines agricoles ou huitième conseiller aux affaires culturelles.
Oui, oui.
Ou rien du tout. Ils agissent sous couvert là d'activités à l'export, dans le monde du transport notamment, ce qui justifie beaucoup de leurs activités et de leurs déplacements sans qu'ils aient besoin de demander 42 autorisations ou qu'on trouve ça suspect.
Que va faire un agent double concrètement? Donnez-nous un exemple auquel vous avez été confronté. Il a accès à tous les renseignements?
Non, bien sûr que non. D'abord, personne n'a accès à tous les renseignements, sauf quand on remonte dans les sphères gouvernementales, où c'est arrivé d'ailleurs. Non, un agent double, c'est quelqu'un qui peut vous donner la liste des agents, qui peut savoir où ils sont nommés, qui peut justement révéler des couvertures, révéler des légendes, comme le montre l'excellente série télévisée qui a, en partie seulement, fort heureusement, révélé une partie de leurs activités. Non, il y a en la matière beaucoup d'informations qui ne sont pas essentielles, mais qui permettent d'identifier des opérateurs.
Alors là, en l'occurrence, il serait soupçonné d'avoir travaillé en quelque sorte pour la Chine et d'avoir révélé des méthodes de travail des renseignements français. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que ça vous paraît possible?
Alors d'abord, il faut toujours attendre le double pavillon, la vraie fausse information, les révélations nécessitent toujours du temps pour savoir qui vraiment espionne qui. Est-ce qu'était le sujet, on a eu quelques affaires internes qui ont montré à quel point tout ça n'était pas si simple. Mais en la matière, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup à apprendre des méthodes du renseignement français. Il y a beaucoup à apprendre de ces techniques et notamment de ces outils dont une partie d'ailleurs ne sont même pas connues en France.
Information, je le rappelle, confirmée par le ministère des Armées. Merci beaucoup de nous avoir donné ces éclairages, Alain Boer. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions Odile Jacob « Les guetteurs, les patrons du renseignement français répondent ». Bonne journée à vous.
Bonne journée.